Bonjour mes frères et sœurs, vous allez bien ce matin? Gloire à Dieu, moi aussi ça va bien. Eh ben voilà, je suis encore là. Ah, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails qui m'ont fait beaucoup de plaisir. Ça fait du bien de voir qu'il y a tant d'amour. Mon frère m'a téléphoné ce matin, j'ai Yves Rugère qui m'a aussi téléphoné, qui entre autres, hein, mais... Je parle là parce qu'il va venir très prochainement avec les plans pour les 5 futures maisons qu'on va construire. Waouh, ça c'est bon. Amen. Et on va faire des propositions là-dessus et je suis très content parce que ça va bouger. On va faire la première d'abord, puis ensuite la troisième, ensuite la deuxième. Non, on va construire quelque chose de très beau et il faut toujours avoir des projets comme si Jésus revient dans 30 ans et vivre comme s'il revient cette nuit. Amen. Ça, c'est bon. Je vous invite à lire avec moi dans Luc 24, verset 13. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit-il le seul, « qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant, en œuvre, en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs l'ont livré ?» pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout ça, voilà le troisième jour que ces événements sont produits. Mais il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés et elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu, lui. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, c'est le soir qui approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons. Ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. » Amen. C'était le dimanche. Jésus s'était montré aux femmes, près du tombeau, ouvert. Et elles étaient... vite aller dire aux 11 ce qui s'était produit. Alors Pierre avait couru jusqu'au jardin de la tombe et il s'était baissé là pour voir et il a vu que la tombe était vide, il y avait juste des bandelettes qui traînaient par terre. Alors il s'en est retourné chez lui, mais il était très étonné, perplexe de ce qu'il avait entendu de la part des femmes, premièrement, et puis de ce qu'il avait vu lui-même. Ce même jour, le dimanche après-midi, deux disciples de Jésus marchaient sur la route en direction d'Emmaüs. Emmaüs, ça se trouve à peu près à entre 11 et 12 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. L'un d'entre eux, la Bible nous dit, se nommait Cléopas. Et il parlait de ce qui s'était passé. Alors leur conversation était un peu triste. C'était deux disciples, mais ils ne faisaient pas partie du groupe des 11. Bien sûr, ils étaient au courant de ce que les femmes avaient raconté, mais ce que les femmes avaient dit leur avait paru un peu comme des niaiseries. Oh, des trucs de bonnes femmes un peu déséquilibrées, c'était émotionnel. Et comme ils marchaient, voilà qu'un troisième personnage se joint à eux. C'est Jésus. Jésus se joint à eux. On trouve ça au verset 15 et au verset 16. La Bible nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Frères et sœurs, si seulement vous pouviez reconnaître que Jésus marche avec vous. Si seulement vous pouviez le reconnaître dans tous vos chemins. Si seulement vous pouviez le reconnaître dans toutes vos voies. Je voudrais vous lire Proverbe 3, 6, 10. Confie-toi, d'abord au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce qui empêchait leurs yeux de le reconnaître? Eh bien, c'était le manque de simplicité, mes frères et sœurs. Vous voyez, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons que si nous lisons la parole de Dieu, si nous écoutons les prédications inspirées par Dieu, eh bien la foi grandit dans nos cœurs. Nous savons que pour faire grandir la foi dans le cœur des gens, il faut leur parler des choses qui ont trait aux besoins qu'ils ont. Par exemple, si j'arrive dans un endroit et que je ne prêche pas la guérison, eh bien je ne peux pas m'attendre à ce que des gens soient guéris. Il faut apporter la parole adéquate pour que les gens puissent avoir leur foi qui grandit au sujet des choses qu'ils ont à décrocher dans leur foi pour pouvoir être bénis. Et eux, eh bien, ils savaient beaucoup de choses. Ils connaissaient la parole de Dieu. Jésus en personne, la parole faite chair, leur avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient entendu aussi le témoignage des femmes, c'est-à-dire que ce que la parole avait dit était accompli maintenant. Ils avaient entendu le témoignage, le récit de Pierre, au sujet de la tombe vide. Mais leur cœur, pendant tellement d'années, s'était attendu à tellement autre chose. Pendant plus de 3 ans, ils avaient tellement espéré voir Jésus se mettre à régner. Ils avaient tellement cru que Jésus allait chasser les Romains, que leur cœur était troublé. À cause du spectacle effrayant de la croix, leur cœur était troublé. Jésus, en qui ils avaient placé tout leur espoir, était mort. Et de quelle mort? Une mort violente, quelque chose d'épouvantable qui avait impressionné leur vie. Mort, mort et enterré. Alors même en le voyant avec eux, même en le voyant avec eux, marchant sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a des chrétiens qui disent, oui, Jésus avait pris une autre apparence. Pas du tout. C'était leurs yeux qui étaient empêchés de le reconnaître. Comme parfois, vos yeux sont empêchés de reconnaître Jésus sur votre propre chemin, dans votre propre vie, dans les expériences que vous faites. Ces deux disciples, ils avaient la tête pleine des enseignements des rabbins. Qu'est-ce qu'ils enseignaient, les rabbins? Une partie de la parole de Dieu. Ils disaient, le Messie va venir nous délivrer de l'occupation des Romains. Voyez, c'est écrit, alors ils citaient des textes bibliques et ils n'avaient pas tort. Mais ils interprétaient selon leur propre intelligence et aussi pour pouvoir apporter quelques consolations au peuple. Mais ce n'était pas la vérité. Bien sûr que c'est la vérité que Jésus était venu pour délivrer de l'oppression de l'ennemi, mais ils n'avaient pas compris la réalité. Les religieux n'avaient pas vu dans les Écritures que le Messie devait venir en deux fois. Une fois comme Messie souffrant, comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et une deuxième fois comme roi régnant avec une verge de fer. Ils n'avaient pas compris ça. Ils avaient tout mélangé. Ils avaient vu Jésus revient, le Messie vient, il va nous délivrer, il va venir avec une verge de fer, et puis ça va être formidable. Et les gens écoutaient les religieux. Les gens croyaient ce que les religieux leur disaient. Les gens s'imprégnaient de cela. Ils trempotaient toute la journée dans ça. Et ils croyaient ça. Ils n'allaient pas contrôler eux-mêmes dans les Écritures. Et si quelques-uns osaient aller se mettre à chercher dans les Écritures la vérité, on leur disait « Oh, arrêtez d'étudier !» C'est dangereux. Restez simple. Restez sur ce que vous avez appris de nous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Même les 12 apôtres qui avaient vécu avec Jésus pendant tant d'années, ils croyaient les rabbins. Ils avaient bien reconnu que Jésus était le Messie, mais sans arrêt, ils s'attendaient à voir Jésus prendre le pouvoir. Ils attendaient ça, ils attendaient que ça. Ils n'attendaient surtout pas à le voir mourir sur une croix comme un criminel. Alors, ils ne savaient plus quoi penser. Ils ne savaient plus quoi penser. Mais ça n'empêchait pas Jésus d'être avec eux. Ils ne comprenaient rien. Ils écoutaient Jésus, mais ne comprenaient rien. Et Jésus ne s'en offusquait pas. Il marchait avec eux, malgré tout. Et eux, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et combien de fois n'avons-nous pas élevé la voix disant « Seigneur, mais pourquoi cette souffrance? Seigneur, mais qu'est-ce que je fais pour que tu m'exposes, pour que tu m'affliges de telles souffrances? Seigneur, comment se fait-il que tant de malheurs s'abattent sur tes enfants, sur les tiens? Regardez ce qui vient d'arriver encore à Nicolas. On vient lui voler sa voiture, il essaye de se défendre, le type lui mord la main, la dent se casse à l'intérieur de la main. La police arrive, ils arrêtent le voleur. Nicolas va à l'hôpital, on l'opère. Mais plutôt que de chercher dans la plaie à la nettoyer correctement, ils recousent avec la dent à l'intérieur. Ça s'infecte, ça devient pire, ils sont obligés de réouvrir. Nous avons dû envoyer de l'argent pour payer des médicaments, pour envoyer aussi des médicaments. On pourrait... Mais Seigneur, mais enfin... S'il y a un homme sur cette terre qui prêche ta parole avec fidélité, si ce n'est pas Nicolas, c'est qui? Hein? Alors pourquoi tu permets que ça lui arrive à lui? Mais mon Dieu, il y a assez de traîne savate à qui ça pourrait arriver. Pourquoi ça lui arrive à lui, Seigneur, quand même? Tu devrais un peu mieux protéger les tiens. Il y a quelque chose qui ne joue pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais peut-être qu'il a péché, Nicolas, puis Dieu le punit. Ah, mais peut-être. Vous voyez, puis toutes sortes de bêtises comme ça. Mes frères et sœurs, Jésus marche avec vous. Jésus marche avec notre frère Nicolas. Jésus marche avec vous qui souffrez. Et vous, vous marchez dans la souffrance, vous marchez dans les difficultés, vous marchez avec vos problèmes, avec vos peines, comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, les épaules basses, traînant un peu le pas. Bien sûr, vous êtes nés de nouveau. Bien sûr que les promesses sont pour vous, vous le savez. Mais vous avez à vivre la souffrance. Vous avez à ajouter dans votre corps les souffrances qui manquent à celles de Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un le prêche. Mes frères et sœurs, nous avons les arts de l'esprit. Nous ne régnons pas encore. Nous sommes l'épouse souffrante. Je vais vous lire ce que Paul dit dans Colossiens 1, 24. Il parle de lui-même. Il dit « Je dois souffrir pour vous ». Ça veut dire « Je dois souffrir à votre place ». Je dois souffrir pour vous. Je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres, qui sont aussi celles de Christ, accomplir ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église, son corps. Être disciple de Jésus-Christ, ça ne vous met pas à l'abri des souffrances. Ça ne vous met pas à l'abri des difficultés. Ça ne vous met pas à l'abri des trahisons. Ça ne vous met pas à l'abri des maladies et de toutes sortes de choses, de disettes et compagnie. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est avoir part aux souffrances de l'enfantement douloureux de l'Église, du corps de Christ, du nouveau corps de Christ. Dieu est venu, il s'est formé un corps. Ce corps s'est promené sur cette terre. Son nom était Jésus-Christ. Maintenant, il vit dans son épouse. Ce corps est en train de naître. Être disciple, Luc 14, 33, c'est accepter de renoncer à une vie peinarde pour ajouter dans notre propre chair les souffrances qui manquent à celles de Jésus-Christ sur la terre. La souffrance de la mise au monde de l'Église de Jésus-Christ, de son corps. Vous souffrez? Pourquoi souffrez-vous? Vous souffrez parce que vous vous êtes bourré la gueule? Bien fait pour vous. Ça, ce n'est pas une souffrance qui manque à celle de Christ, ça. C'est vos excès, c'est vos péchés. Vous souffrez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait souffrir ? Vous souffrez en faisant la volonté de Dieu ? Ah, là, c'est autre chose. Vous souffrez parce que vous êtes fidèle dans l'Église ? Vous souffrez parce que vous accomplissez les saintes ordonnances et que des fois c'est difficile, mais vous le faites quand même. Vous souffrez en consacrant votre vie à vos frères et sœurs. C'est difficile, mais vous le faites quand même. Vous souffrez du manque de compréhension de la part des superficiels, de la part des faux frères. C'est difficile, mais vous le faites quand même. Et vous continuez à aimer, à pardonner, à être compatissant, toujours. Vous souffrez de la persécution, étant traité comme des malfaiteurs alors que vous aimez. Vous souffrez de la disette momentanée. Vous souffrez d'épuisement dans l'œuvre d'évangélisation. Vous souffrez parce que vous résistez au mal. Votre souffrance, c'est la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Votre récompense sera grande. Ce sont des choses qui sont imposées à tous vos frères et sœurs. C'est ce que la Bible nous dit. De grâce, mes frères et sœurs, reconnaissez Jésus-Christ qui marche avec vous, qui souffre avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez pas quoi choisir. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous avez trop écouté les rabbins de notre temps. Ces gens qui se font passer pour maîtres et qui enseignent ce sacro-saint truc du libre-arbitre. Reconnaissez Jésus-Christ dans toutes vos voies. Qui avait décidé que les disciples, ces deux, devaient aller à Emmaüs ? C'est Jésus. Est-ce qu'il le savait ? Non. Mais Jésus, il le savait, il avait prédestiné cela et il les a rencontrés là. Amen, oui ou non ? Reconnaissez-le sur tous vos chemins où vous marchez. Pourtant, ces deux disciples, ils s'étaient séparés des 11 et des autres, ils n'étaient plus que deux là, un petit peu comme des brebis égarées ayant abandonné le troupeau. Mais c'était le plan de Dieu pour le moment. Et Dieu les rencontra là. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Que vos yeux ne soient pas empêchés de le reconnaître. Et pendant que je suis en train de vous parler, votre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de vous? Y a-t-il pas un Amen qui brûle au-dedans de vous? Ne soyez donc pas des hommes et des femmes sans intelligence dans le cœur et lents à croire tout ce qu'ont dit les envoyés de Dieu. Christ ne devait-il pas souffrir? Voilà ce que Jésus leur demande. Et moi je vous demande, l'épouse ne doit-elle pas souffrir? Si vous souffrez avec lui, la Bible dit, vous serez glorifié avec lui. Oui ou non? Aussitôt qu'on a un petit bobo, Seigneur, délivre-moi. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Nous devons rajouter en nous-mêmes les souffrances qui manquent à celles de Christ. Et ces souffrances-là, c'est la mise au monde, l'enfantement de l'Église de Jésus-Christ. Vous souffrez? Les deux disciples d'Emmaüs souffraient. Mais pire que cette souffrance, c'était leur aveuglement. Si vous n'étiez pas aveugle, vous verriez que c'est Jésus qui vous conduit. Vous verriez que c'est Jésus qui est avec vous dans tous ces trucs qui se passent dans votre vie. Comment Jésus avec moi dans de tels endroits? Comment Jésus avec moi dans de telles situations? Mais bien sûr, mais tu crois quoi? Mais où? Quel est l'endroit qui existe où Jésus n'est pas? Frères et sœurs, Jésus était avec eux et il cherchait à les convaincre, à ouvrir leurs yeux. Il leur expliquait, et encore là ce matin, il a rendez-vous avec vous, votre chemin d'Emmaüs, c'est là. Et il croise votre chemin, il vous parle, il tente de vous expliquer, d'ouvrir vos yeux. Mais ils ne comprenaient toujours pas. Oh, il y avait une petite flamme qui brûlait dans leur cœur, mais ils n'y arrivaient pas encore. En fait, ils sont arrivés au village. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Jésus parut vouloir aller plus loin, verset 28. Et les deux disciples pressèrent, disant, « Reste avec nous, c'est la fin du jour, la nuit va tomber, les routes ne sont pas sûres, reste avec nous. » Et Jésus resta avec eux. Ils ont prié. Il vous semble que Jésus va trop loin? Il vous semble que son serviteur va trop loin? Priez. Pressez-le de rester avec vous. Désirez rester avec lui et il ouvrira vos yeux. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Achetez de lui un collier pour ouvrir vos yeux, pour oindre vos yeux. Ne restez pas seul comme ont fait ces deux disciples. Dieu l'a permis pour un temps, mais ce n'était pas sa volonté totale. Ils ont quitté les 11 pour aller faire leur truc à Emmaüs. Reconnaissez Jésus dans vos voies. Il est avec vous. Il veut aller plus loin, mais il veut y aller avec vous. Il veut y aller avec vous. Les deux disciples, aussitôt qu'ils l'ont reconnu, alors ils sont retournés sur leurs pas, voir les 11 apôtres, voir les autres croyants, dans l'unité, dans la communion fraternelle. Là où deux ou trois sont assemblés, là se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, reconnais qu'il est ici et qu'il veut aller avec toi, plus loin, avec toi et avec nous tous. Que Dieu te bénisse. Amen.